Chapitre 40. Dans la salle des impressionnistes du musée des Beaux-Arts de Rouen, l'inspecteur Silvio Benavides ouvre des yeux de hibou. Achille Guillotin a encore bougé. Le conservateur a sorti un mouchoir et nettoie une invisible marque de poussière sur le côté d'un tableau de Sisley. « L'inondation à Port-Marly », indique le carton sous le tableau. Au moment même où Silvio se demande si Guillotin n'a pas oublié sa question, le conservateur se retourne. Il tamponne un coin de son mouchoir sur son front et déclame d'une voix de prédicateur. Des toiles de monnaie disparue ou inconnue, mais qui pourraient refaire surface, c'est bien ce que vous me demandez, inspecteur? Si vous y tenez, allons-y, je peux jouer avec vous au jeu des suppositions. Le mouchoir éponge ses tempes. On sait que les ateliers de Claude Monet à Giverny contenaient des dizaines de tableaux, dont des croquis, des toiles de jeunesse, de grands panneaux de nymphéas inachevés. Sans parler des dons des amis, Cézanne, Renoir, Pissarro, Boudin, Manet, plus d'une trentaine de toiles. Vous vous rendez compte? Toute cette fortune, cette colossale fortune, plus précieuse que la collection de n'importe quel musée au monde, gardée tout au plus par un vieillard de 80 ans et son jardinier, seulement protégée par une porte qui devait à peine fermer, des vitres juste repoussées, des murs lézardés. N'importe qui aurait pu se servir. N'importe quel Givernois un peu malin aurait gagné davantage en un simple larcin qu'en braquant 20 banques. Le mouchoir essuie une dernière fois son visage et termine en boule dans sa paume. Une telle fortune à portée de main, je ne vois pas d'autre exemple d'une telle tentation. Silvio commence à comprendre. Il observe autour de lui la dizaine de toiles accrochées au mur. Le musée de Rouen, qu'on présente comme la plus belle collection impressionniste de province, ne possède pas le quart des tableaux que contenaient les ateliers de Monet. Il insiste. Pourrait-il encore rester des tableaux de maître dans les ateliers de Monet, à Giverny? Achille Guillotin hésite un instant avant de répondre. Eh bien, Claude Monet est mort en 1926. Michel Monet, son fils et héritier, a sans doute pris soin depuis très longtemps de chercher et de mettre à l'abri toutes les toiles de son père dont il n'a pas fait don à des musées. Donc, pour répondre à votre question, disons qu'il est fort peu probable qu'on découvre aujourd'hui de nouvelles toiles originales dans la maison rose de Giverny. Mais après tout, on ne sait jamais. Et sans aller jusqu'à parler de vol, continue l'inspecteur avec un peu plus d'assurance. Monet aurait-il pu distribuer des tableaux, en donner? La presse locale a gardé la trace du don d'un tableau à une tombola pour financer l'hôpital de Vernon. Quelqu'un a donc dû le gagner, ce tableau, pour une mise de 50 centimes à l'époque. Pour le reste, on doit toujours se contenter de suppositions. On sait que les habitants de Giverny n'ont pas rendu la vie facile à Claude Monet. Il a dû négocier pour chaque once de sa passion, pour l'achat de sa propriété, pour conserver les paysages tels qu'il les peignait, et surtout pour détourner l'eau du Ru vers son bassin au Nymphéa. Monet a payé, beaucoup payé pour le village. Payé encore pour qu'une usine d'amidon ne s'installe pas juste devant son jardin. Payé pour figer tout son coin de nature en dehors de tout progrès. Là encore, un type malin, un conseiller municipal, un paysan futé aurait fort bien pu négocier à la place d'une aumône de 500 francs n'importe quel tableau du maître. J'ai conscience que les spécialistes ne croient pas en général à ce genre d'arrangement entre les artistes et les indigènes. Mais peut-on vraiment exclure que parmi tous les Givernois, l'un d'entre eux ait été capable de s'intéresser à la peinture, au moins à sa valeur marchande? Monet aurait donné, bien entendu, il n'avait pas le choix. Regardez par exemple l'étrange moulin, à côté des jardins de Monet, les Chenevières. J'y pense à chaque fois que je vais à Giverny, à cause de la toile de Theodore Robinson, le fameux père Trognon. Eh bien, les paysans du moulin avaient tous les moyens de faire chanter Monet. Le Ru passait par chez eux. Pas d'entente avec eux, pas de nymphéa. Silvio Benavides n'a pas le temps de tout noter. Il essaye de mémoriser le flux d'informations. « Vous parlez sérieusement ? J'ai l'air d'un plaisantin, jeune homme. Je vais vous dire. Il existe des crétins de chasseurs au trésor qui parcourent le monde à la recherche de 3 pièces d'or. S'ils étaient juste un peu plus malins, ils visiteraient les greniers des maisons de Giverny et des villages autour. Je sais bien ce que l'on raconte. Claude Monet détruisait les tableaux dont il n'était pas satisfait ou ses œuvres de jeunesse. Il avait tellement peur qu'après sa mort, les antiquaires se ruent sur ses toiles inachevées ou ses esquisses qu'il incendia dans son atelier toutes les œuvres qu'il n'aimait pas en 1921. Mais malgré toutes les précautions du maître, ce serait bien le bout du monde qu'il ne reste pas quelque part une toile de Monet, juste une vieille toile oubliée. De quoi s'acheter une île dans le Pacifique. Le conservateur change encore de pièce et jette un regard noir sur une gardienne qui semble plus occupée par la couleur rouge de son vernis à ongles que par celle de la robe du cardinal qui interroge Jeanne d'Arc dans la toile de Delaroche. Autre chose, glisse l'inspecteur. Vous avez parlé de Théodore Robinson, le peintre impressionniste, l'ami de Claude Monet. Que pensez-vous de la fondation que ses héritiers ont fondée? Guillotin plisse des yeux étonnés. Pourquoi cette question? Cette fondation revient souvent dans notre enquête. Bizarrement, pas mal de personnes dans notre affaire semblent avoir un lien avec elle, au moins indirect. Et vous voudriez savoir quoi? Aucune idée, juste ce que vous en pensez. Le conservateur hésite, comme s'il cherchait les bonnes paroles. Comment vous dire, inspecteur? C'est compliqué, une fondation. Ce genre d'association est officiellement tout ce qu'il y a de plus désintéressé. Je vais essayer de trouver une image. Tenez, imaginez une association qui s'occupe des pauvres. Eh bien, le paradoxe, c'est que si le nombre de pauvres baisse, la raison d'être de l'association diminue. En d'autres termes, mieux elle travaille et plus elle se saborde. Pareil pour une fondation qui milite contre la guerre. La paix, pour elle, cela signifierait sa mort. Comme un médecin qui soignerait si bien ses patients qu'il se retrouverait au chômage. Exactement, inspecteur. Je comprends. Mais quel est le rapport avec la Fondation Robinson? Ils ont une devise, je crois. Les trois pros, comme ils disent. Prospection, protection, promotion. C'est formidable. Ça marche aussi bien en français qu'en anglais. En clair, cela veut dire qu'ils cherchent des toiles dans le monde entier, qu'ils les achètent, qu'ils les vendent, mais aussi qu'ils investissent sur de jeunes peintres, très jeunes même. Ils investissent sur eux, ils les achètent, ils les vendent. Et alors? Un talent chasse l'autre, inspecteur. Une toile, ce n'est pas un disque ou un livre. La fortune d'un artiste peintre ne se calcule pas sur le plus grand nombre de ventes. C'est même tout l'inverse, et c'est là-dessus que repose tout le système. Une toile vaut cher parce que les autres valent moins, ou rien du tout. Si le jeu est libre, s'il y a concurrence entre critiques, écoles, galeries, à la limite, tout va bien. Mais si une fondation se retrouve en situation de monopole, ou presque, vous comprenez? Pas vraiment. Guillotin ne dissimule pas un tic agacé. Eh bien, dans ce cas de monopole, plus cette fondation découvre de nouveaux talents, en d'autres termes, plus elle renouvelle l'art, le pro de prospection, si vous voulez, et plus elle s'aborde la valeur marchande de ses autres toiles, le pro de protection. Vous saisissez? Pour être honnête, plus ou moins. Benavides se gratte la tête. Je vais vous poser une question plus concrète. Si un tableau de Monet s'était perdu dans la nature, la Fondation Robinson aurait-elle les moyens de le retrouver? La réponse claque. Sans aucun doute. Davantage que n'importe qui d'autre. Et sans doute par n'importe quel moyen. Bien, continue Benavides, qui a définitivement adopté cet air de droupie que le conservateur semble apprécier. J'ai une dernière question. Elle va peut-être vous surprendre. Existe-t-il des toiles inconnues de Monet? Je ne sais pas, des toiles particulièrement rares ou des toiles scandaleuses, quoi que ce soit qui pourrait se rapporter à une affaire de sang. Achille Guillotin arbore un sourire sadique, comme s'il s'attendait à cette ultime question. L'apothéose de la conversation. « Venez !» susurre-t-il sur un ton de conspirateur. Il l'emmène près du mur opposé, en direction d'une toile torturée où quatre hommes nus, visiblement des esclaves romains, tentent de dompter un cheval fou. Observez ces corps peints par Géricault. Oui, le fameux Théodore Géricault. Le plus grand peintre né à Rouen. Observez les corps, le mouvement. Les peintres entretiennent un rapport étrange avec la mort, inspecteur. On sait que pour composer avec réalisme son radeau de la Méduse, Théodore Géricault récupérait dans les hôpitaux des bras et des pieds amputés, des têtes décapitées. Oh, son atelier puait le cadavre. À la fin de sa vie, pour soigner sa propre folie, il peindra à la Salpêtrière 10 portraits de fous, les 10 monomanes qui représentent tous les tourments de l'âme humaine. Silvio craint que le conservateur ne s'égare dans une nouvelle digression. Mais Monet n'était pas fou. Il ne peignait pas les cadavres. La face cachée d'Achille Guillotin semble se dévoiler. Ses rares cheveux se dressent sur son crâne lunaire, tels des cornes sataniques atrophiées. Le 11e monomane ? Venez voir, inspecteur. Guillotin dévale les escaliers, les 2 étages, se rue dans la boutique du musée, attrape un énorme livre et déchire le plastique transparent entre ses dents. Il tourne les pages, comme habité. Monet n'a pas peint la mort. Monet ne peignait pas les cadavres, seulement la nature. Regardez, inspecteur, regardez! Benavidez ne peut réfréner un mouvement de recul. Un spectre, pleine page. Le tableau représente un portrait de femme, yeux clos, comme enveloppé d'un suaire de glace, d'un tourbillon de coups de pinceau gelés, comme prisonnière d'une toile d'araignée blanche qui dévore le visage pâle du modèle. La mort. « Je vous présente Camille Monet », explique la voix froide de Guillotin. « Sa première femme, son plus joli modèle. » La demoiselle à l'ombrelle dans les coquelicots, la compagne radieuse des dimanches à la campagne, morte à 32 ans. Monet a peint ce tableau maudit au chevet du lit de mort de sa femme. Il s'en vaudra toute son existence de ne pas avoir pu résister à la tentation de fixer sur la toile les couleurs de la vie qui s'envole, d'avoir traité son amour à l'agonie comme un vulgaire objet d'étude. Comme Géricault et sa fascination pour les corps écartelés. Comme si le peintre avait pris possession de l'amant désespéré. Monet, devant le frais cadavre de sa femme, raconta qu'il avait été victime d'une sorte de peinture automatique, comme sous hypnose. Qu'en pensez-vous, inspecteur? Jamais Silvio Benavides n'a ressenti une telle émotion devant un tableau. Il existe d'autres œuvres de ce type? Des toiles de Monet, je veux dire? La face ronde d'Achille Guillotin rougit encore, comme si un diable assoupi se réveillait en lui. « Qu'y a-t-il de plus fascinant que de peindre la mort de sa femme, inspecteur? Y avez-vous pensé? Rien, bien entendu !» Le rouge lui monte aux tempes. « Rien, sinon pouvoir peindre sa propre mort. Les derniers mois de vie, Monet peignait des nymphéas inachevées. » L'égal des partitions du Requiem de Mozart, si vous comprenez ce que je veux dire. Des coups de pinceau affolés, une course contre la mort, contre la fatigue, contre la cécité. Des toiles hermétiques, douloureuses, torturées, comme si Monet avait plongé à l'intérieur de son cerveau. On a découvert des nymphéas jetés en urgence sur la toile de toutes les couleurs, rouge feu, bleu monochrome, vert cadavre. Rêves et cauchemars mêlés, une seule couleur manquait. Silvio voudrait bafouiller une réponse. Rien ne sort. Il sent que l'enquête dérape, lui échappe. La couleur que Monet avait bannie à jamais de ses toiles, celle qu'il se refusait à utiliser, l'absence de couleur, mais aussi l'union de toutes. Un silence. Silvio renonce à chercher à répondre. Il griffonne nerveusement sur la page de son bloc. « Le noir, inspecteur, le noir !» On raconte que les derniers jours avant sa mort, début décembre 1926, quand Claude Monet a compris qu'il allait partir, il l'a peint. Quoi ? Bafouille Benavides. Guillotin soliloque, il n'écoute plus. Vous comprenez bien ce que je vous dis, inspecteur. Monet a observé sa propre mort dans le reflet des nymphéas et il l'a immortalisée sur la toile. Les nymphéas. En noir. Le stylo de Silvio pend au bout de sa main, le long de sa jambe. Incapable désormais de prendre la moindre note. Qu'en dites-vous, inspecteur ? Demande le conservateur dont l'exaltation retombe. Les nymphéas, en noir, comme le dahlia ? C'est une certitude, cette histoire de nymphéas en noir ? Non ! Bien sûr que non ! Bien entendu, personne n'a jamais retrouvé cette toile, ces fameux nymphéas en noir. Vous pensez c'est une légende, simplement une légende. Silvio ne sait plus quoi dire. Il pose la première question qui lui vient à l'esprit. Et les enfants ? Monet a peint des enfants.